VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 16h à Ouagadougou, 18h à Bujumbura. Bienvenue dans notre journal. Aujourd'hui dans l'actualité africaine, au Burundi, les manifestants hostiles au président Pierre Nkurunziza ont de nouveau défié la police ce lundi dans les rues de Bujumbura, la capitale, mais également en province, où au moins un protestataire a été tué par des tirs de policiers. Le bilan a été fourni par l'AFP. Plus de détails avec Jacques Aristide.
Le drame s'est produit à Mugamba, dans la province de Bururi. C'est à 60 km au sud-est de la capitale. La police a ouvert le feu sur une centaine de manifestants, rapporte l'AFP. Fusillade qui a donc fait une victime, mais aussi deux blessés. L'incident intervient après un week-end de trêve endeuillé par l'assassinat de l'opposant burundais Zedi Feruzi, une figure du mouvement actuel contre le pouvoir présidentiel. Après sa mort, la coordination anti-troisième mandat a suspendu sa participation à des négociations avec le gouvernement sous l'égide de l'ONU et de l'Union africaine. Dialogue qui se limitait à des questions autour des manifestations, alors que le cœur du problème, la candidature de M. Nkurunziza à un troisième mandat, n'était pas encore abordée. Un diplomate a laissé entendre que seuls les chefs d'État des pays de la région, qui doivent se retrouver dans les prochains jours, pourraient être en mesure de débloquer la situation. En attendant, le bras de fer se poursuit entre manifestants et forces de l'ordre qui avaient pris position ce lundi dès l'aube dans et autour des habituels quartiers contestataires de Bujumbura pour empêcher tout rassemblement.
Au Nigeria, 10 personnes ont été massacrées à la machette par des islamistes de Boko Haram dans un village reculé du nord-est du pays. Joint par l'AFP, Maina Oularamou, le chef du district de Madagali, a déclaré que l'attaque a eu lieu vendredi matin, une attaque connue qu'aujourd'hui car il s'agit d'un village très reculé et que les communications sont très mauvaises dans la région, les insurgés ayant détruit un grand nombre d'antennes relais de téléphonie mobile. L'Adamawa, un des trois États les plus touchés par l'insurrection de Boko Haram, avait été déclaré débarrassé du groupe islamiste en mars par l'armée. Un certain nombre de villages de la région ont été attaqués récemment au moment où l'armée nigériane mène une opération de grande envergure dans la forêt de Sambisa, dans l'État voisin de Borno, pour y détruire de nombreux camps de Boko Haram. Au Burkina Faso, l'exhumation du corps du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons assassinés en 1987 lors d'un coup d'État a eu lieu ce matin à Ouagadougou en présence des familles et de leurs avocats. Maître Ambroise Farama, l'un des avocats de la famille Sankara, a assisté à cette exhumation.
Depuis ce matin, effectivement, la procédure donc d'exhumation est en cours. C'est une exhumation placée sous le sceau de la justice, donc la confidentialité judiciaire. Donc nous avons là les différents experts nationaux et internationaux qui sont là. Nous avons également la police scientifique et nous avons donc les familles, les représentants des différentes familles et les avocats des différentes familles qui sont présents aussi. Le grand public, lui, est maintenu hors du cimetière, un peu loin donc des travaux.
Qu'attendez-vous de cette exhumation, maître?
C'est d'abord de pouvoir identifier exactement les restes des différentes personnes qui se trouvent dans le camp, parce qu'il faut préciser qu'il ne s'agit pas de l'exhumation seulement de la tombe de Thomas Sankara, mais il s'agit de l'exhumation de tous les autres compagnons qui étaient à l'esprit. Et ensuite, l'exhumation devrait pouvoir permettre aux juges d'instruction d'avoir des éléments scientifiques sur les causes de la mort. Parce que vous vous souviendrez qu'à l'époque, il y avait donc un médecin militaire qui avait donc fait les certificats médicaux, les certificats de décès, attestant que Thomas Sankara, par exemple, était mort de mort naturelle. Mais nous attendons que les résultats de cette expertise puissent non seulement permettre de l'identifier, mais également pouvoir nous dire quelle était la cause probable de la mort.
Maître Ambroise Farama, l'un des avocats de la famille Sankara. Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso poursuit ses consultations avec la classe politique et la société civile pour une possible modification de la Constitution qui ouvrirait la voie à un autre mandat. Idée déjà rejetée par l'opposition et même par certaines formations de la majorité. La recrudescence de la violence au Soudan du Sud devient préoccupante. L'ONU s'alarme de la catastrophe provoquée par les combats, particulièrement pour les populations civiles. L'ONG Médecins Sans Frontières s'inquiète également. Les affrontements entravent le déploiement de l'aide humanitaire et certains de ses personnels soignants ont dû se réfugier dans les marais avec leurs patients pour échapper aux violents combats. J'ai joint Lucie Le Carpentier, responsable des affaires humanitaires pour MSF à Djouba, au Soudan du Sud.
On a vu arriver plus de 14 000 personnes au cours des dernières semaines, principalement des femmes et des enfants qui fuyaient les combats et la violence. On a vu arriver des familles, des femmes, des enfants épuisés après avoir dû se cacher pendant des jours dans les marécages pour échapper au combat. On est particulièrement inquiet aussi, notamment du sort des centaines de milliers de déplacés qui n'ont aucun accès à l'aide humanitaire et médicale.
Des conditions qui sont également très difficiles hein, pour votre personnel et notamment particulièrement dangereuses.
Effectivement, ce sont des conditions difficiles. Donc notre personnel local de l'air, durant le week-end passé, a dû s'enfuir dans les marécages avec certains des patients que MSF traitait au moment même. On est en contact avec eux. On sait qu'ils se sont réfugiés dans les marécages pour échapper à la violence. On est inquiet pour leur sort et aussi pour le sort des centaines de milliers de déplacés. Les conditions de travail pour MSF sont également difficiles dans les sites de protection des civils de l'ONU, puisque ces sites n'ont pas été épargnés par la violence. Parfois, il y a eu des combats très, très, très proches de ces sites et nos équipes ont dû se réfugier pendant plusieurs heures dans des abris, alors même qu'il y avait des tirs d'obus et des échanges de tirs à proximité.
Est-ce que cela veut dire que vous pourriez être obligé d'évacuer si la situation devenait trop dangereuse ?
Nous avons déjà dû quitter l'air il y a 2 semaines. Suite à ça, le personnel local s'occupait des patients des MSF, mais ils ont dû fuir à leur tour. Donc il n'y a plus de service de santé pour la population de l'air. On parle de plus de 200 000 personnes. Évidemment, on appelle l'ensemble des parties au conflit à respecter le personnel humanitaire et médical, à respecter les infrastructures de santé, les hôpitaux.
Lucie Le Carpentier de l'ONG Médecins Sans Frontières. Elle était jointe à Djouba, au Soudan du Sud. En Angola, une peine d'un mois de prison avec sursis a été requise contre le journaliste et opposant angolais Rafael Marquez, poursuivi par 7 généraux pour dénonciation calomnieuse, alors qu'il espérait une relaxe négociée lors de la dernière audience, a-t-on appris aujourd'hui auprès de son avocat.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
En Irak, le premier ministre Haider al-Abadi se veut optimiste. Il a déclaré que la ville de Ramadi sera reprise aux islamistes dans les prochains jours et non pas dans plusieurs semaines. Nathalie Barge.
Dans une interview avec la BBC, le dirigeant irakien a admis que les islamistes ont débordé les forces militaires dans un recul spectaculaire qui a incité dimanche le secrétaire américain à la défense, Ashton Carter, à questionner la volonté de l'Irak de vaincre le groupe État islamique. Mais M. al-Abadi a exprimé sa confiance dans la capacité de son pays à repousser la nouvelle ligne de front dans le conflit. Ce sera dans les prochains jours, je peux vous assurer, ils ont remporté cette bataille, cela ne veut pas dire qu'ils ont gagné, a-t-il affirmé en réponse à Ashton Carter, qui avait douté de la volonté du gouvernement irakien. Ce qui s'est passé apparemment est que les forces irakiennes n'ont montré aucune volonté de se battre, a déclaré dimanche M. Carter, ajoutant qu'ils étaient beaucoup plus nombreux que les islamistes. La conseillère à la sécurité nationale américaine, Susan Rice, a fait écho aux préoccupations du secrétaire à la défense sur la chaîne CBS. Les forces de sécurité irakiennes font face à leurs propres défis internes. C'est une force inégale en termes de volonté, d'équipement et de leadership, a déclaré Madame Rice, ajoutant que les États-Unis travaillent avec eux pour répondre à ce qu'elle a qualifié de faiblesse. Peu de temps après les déclarations des officiels américains, le président de la Commission de la Défense et de la Sécurité du Parlement irakien, Hakim al-Zamili, a dit à Associated Press que les commentaires d'Ashton Carter sont irréalistes et sans fondement. Selon lui, les États-Unis essaient de rejeter la faute sur l'Irak après l'échec de Washington à fournir un bon équipement, des armes et un soutien aérien, a rétorqué M. Zamili.
Le retour de la paix au Yémen apparaît plus incertain que jamais avec le report par l'ONU d'une conférence qui devait réunir les différents protagonistes du conflit en fin de semaine à Genève. La situation sur le terrain n'a pas beaucoup changé 2 mois après le lancement de la campagne de frappe aérienne par une coalition arabe. Les outils et leurs alliés contrôlent toujours la capitale Sanaa et d'autres régions du pays. Au Mexique, une tornade a fait au moins 11 morts près de la frontière avec les États-Unis, tandis qu'au Texas, les secours recherchent au moins 12 personnes portées disparues après de fortes inondations. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information dans 50 minutes. Restez avec nous 24 heures sur 24 sur voaafrique.com et notre page Facebook. Bon début de soirée à l'écoute de VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.